4. Fixons la situation. Les Allemands ont pour eux le nombre. Ils sont 3 contre 1, 4 peut-être. Ils avouent 250 000 hommes, mais il est certain que leur front d'attaque était de 30 kilomètres. Ils ont pour eux les positions, ils couronnent les hauteurs, ils emplissent les forêts, ils sont couverts par tous ces escarpements, ils sont masqués par toute cette ombre. Ils ont une artillerie incomparable. L'armée française est dans un fond, presque sans artillerie et sans munitions, toutes nues sous leur mitraille. Les Allemands ont pour eux l'embuscade, les Français n'ont pour eux que l'héroïsme. Mourir est beau, mais surprendre est bon. Une surprise, c'est là ce fait d'armes. Est-ce de bonne guerre ? Oui. Mais si ceci est la bonne guerre, qu'est-ce que la mauvaise ? C'est la même chose. Cela dit, la bataille de Sedan est racontée. On voudrait s'arrêter là, mais on ne peut. Quelle que soit l'horreur de l'historien, l'histoire est un devoir, et ce devoir veut être rempli. Il n'y a pas de pente plus impérieuse que celle-ci, dire la vérité. Qui s'y aventure roule jusqu'au fond. Il le faut. Le justicier est condamné à la justice. La bataille de Sedan est plus qu'une bataille qui se livre. C'est un syllogisme qui s'achève. Redoutable préméditation du destin. Le destin ne se hâte jamais, mais arrive toujours. À son heure, le voilà. Il laisse passer les années, puis, au moment où l'on y songe le moins, il apparaît. Sedan, c'est l'inattendu, fatal. De temps en temps, dans l'histoire, la logique divine fait des sorties. Sedan est une de ces sorties. Donc, le 1er septembre, à 5 heures du matin, le monde s'éveilla sous le soleil et l'armée française sous la foudre. 5. Bazeilles prend feu. Givonne prend feu. Flouain prend feu. Cela commence par une fournaise. Tout l'horizon est une flamme. Le camp français est dans ce cratère, stupéfait, effaré, en sursaut, fourmillement funèbre. Un cercle de tonnerre environne l'armée. On est cerné par l'extermination. Ce meurtre immense se fait sur tous les points à la fois. Les Français résistent, et ils sont terribles, n'ayant plus que le désespoir. Nos canons, presque tous de vieux modèles et de peu de portée, sont tout de suite démontés par le tir effroyable et précis des Prussiens. La densité de la pluie d'obus sur la vallée est telle que la terre en est toute rayée, dit un témoin, comme par un râteau. Combien de canons ? 1100 au moins. 12 batteries allemandes, rien que sur la Moncelle. La 3e et la 4e, Abtellung, artillerie épouvantable, sur les crêtes de Givonne, avec la 2e batterie à cheval pour réserve. En face de Douagny, 10 batteries saxonnes et 2 württembergeoises. Le rideau d'arbres du bois au nord de Villers-Cernay cache l'Abtellung montée, qui est là, avec la 3e grosse artillerie en réserve. Et de ce taillis ténébreux sort un feu formidable. Les 24 pièces de la 1ère grosse artillerie sont en batterie dans la clairière voisine du chemin de la Moncelle à la Chapelle. La batterie de la garde royale incendie le bois de la Garenne. Les bombes et les boulets criblent Suchy, Francheval, Fourue-Saint-Rémy et la vallée entre Èbe et Givonne. Et le triple et quadruple rang des bouches à feu se prolonge sans solution de continuité jusqu'au calvaire d'Illy, point extrême de l'horizon. Les soldats allemands, assis ou couchés devant les batteries, regardent travailler l'artillerie. Les soldats français tombent et meurent. Parmi les cadavres qui couvrent la plaine, il y en a un, le cadavre d'un officier, sur lequel on trouvera, après la bataille, un pli cacheté contenant cet ordre signé Napoléon. Aujourd'hui, 1er septembre, repos pour toute l'armée. Note. La guerre franco-allemande de 1870-1871 Rapport de l'état-major prussien, page 1087. Fin de note. Le vaillant 35e de ligne disparaît presque tout entier sous l'écrasement des obus. La brave infanterie de marine tient un moment en échec les Saxons mêlés aux Bavarois, mais, débordés de toutes parts, reculent. Toute l'admirable cavalerie de la division Marguerite, lancée contre l'infanterie allemande, s'arrête et s'effondre à mi-chemin, exterminée, dit le rapport prussien, par des feux bien ajustés et tranquilles. Ce champ de carnage a trois issues, toutes trois barrées, la route de Bouillon par la garde prussienne, la route de Carignan par les Bavarois, la route de Mézières par les Wurtembergeois. Les Français n'ont pas songé à barricader le viaduc du chemin de fer. Trois bataillons allemands l'ont occupé dans la nuit. Deux maisons isolées sur la route de Ballan pouvaient être le pivot d'une longue résistance. Les Allemands y sont. Le parc de Montvillers, à Bazeilles, touffu et profond, pouvait empêcher la jonction des Saxons, maîtres de la Moncelle, et des Bavarois, maîtres de Bazeilles. On y a été devancé. On y trouve les Bavarois coupant les haies avec leurs serpes. L'armée allemande se meut tout d'une pièce, dans une unité absolue. Le prince de Saxe est sur la colline de Méry, d'où il domine toute l'action. Le commandement oscille dans l'armée française. Au commencement de la bataille, à 5h15, Mac Mahon est blessé d'un éclat d'obus. À 7h, Ducrot le remplace. À 10h, Wimpfen remplace Ducrot. D'instant en instant, le mur de feu se rapproche. Le roulement de foudre est continu. Sinistre pulvérisation de 90 000 hommes. Jamais rien de semblable ne s'est vu. Jamais armée ne s'est abîmée sous un pareil écroulement de mitraille. À 1h, tout est perdu. Les régiments pêle-mêle se réfugient dans Sedan, mais Sedan commence à brûler. Le Dijonval brûle, les ambulances brûlent, il n'y a plus de possible qu'une trouée. Wimpfen, brave et ferme, la propose à l'empereur. Le 3e zouave, éperdu, a donné l'exemple. Coupé du reste de l'armée, il s'est frayé un passage et a gagné la Belgique. Fuite des lions. Tout à coup, au-dessus du désastre, au-dessus du monceau énorme des morts et des mourants, au-dessus de tout cet héroïsme infortuné, apparaît la honte. Le drapeau blanc est arboré. Il y avait là Turenne et Vauban, tous deux présents, l'un par sa statue, l'autre par sa citadelle. La statue et la citadelle assistèrent à la capitulation épouvantable. Ces deux vierges, l'une de bronze, l'autre de granit, se sentirent prostituées. Ô face auguste de la patrie, ô rougeur éternelle. 6. Ce désastre de Sedan était facile à éviter pour le premier venu. Impossible pour Louis Bonaparte. Il l'évita si peu qu'il vint le chercher. Lex Fati. Notre armée semblait arrangée exprès pour la catastrophe. Le soldat était inquiet, désorienté, affamé. Le 31 août, il y avait dans les rues de Sedan des soldats qui cherchaient leur régiment et qui allaient de porte en porte demandant du pain. On a vu qu'un ordre de l'empereur indiquait le lendemain 1er septembre pour jour de repos. En effet, l'armée était épuisée de fatigue. Et pourtant, elle n'avait eu que de courtes étapes. Le soldat perdait presque l'habitude de marcher. Tel corps, le premier par exemple, en était à ne faire que 2 lieues par jour, le 29 août, de Stone à Raucourt. Pendant ce temps-là, l'armée allemande, inexorablement commandée et menée au bâton comme l'armée de Xérès, accomplissait des marches de 14 lieues en 15 heures, ce qui lui permettait d'arriver à l'improviste et de cerner l'armée française endormie. Se laisser surprendre était la coutume. Le général de Failly s'était laissé surprendre à Beaumont. Le jour, les soldats démontaient leurs fusils pour les nettoyer. La nuit, ils dormaient, sans même couper les ponts qui les livraient à l'ennemi. Ainsi, l'on négligea de faire sauter les ponts de Mouzon et de Bazeilles. le 1er septembre, le jour n'avait pas encore paru que déjà une avant-garde de 7 bataillons, commandée par le général Schulz, saisissait le roule et assurait la jonction de l'armée de la Meuse avec la garde royale. Presque à la même minute, avec la précision allemande, les Wurtembergeois s'emparaient du pont de la Platinerie et, cachés par le bois chevalier, les bataillons saxons, déployés en colonne de compagnie, occupaient tout le chemin de la Moncelle à Villers-Cernay. Aussi, on l'a vu, le réveil de l'armée française fut horrible. À Bazeilles, un brouillard s'ajoutait à la fumée. Nos soldats, assaillis dans cette ombre, ne savaient ce que la mort leur voulait. Ils se battirent de chambre en chambre et de maison en maison. Note. Les Français furent littéralement tirés du sommeil par notre attaque. Helwig. Fin de note. Ce fut en vain que la brigade Reboul vint appuyer la brigade Martin Despaillères. Il fallut céder. En même temps, Ducrot était forcé de se concentrer au bois de la Garenne, en avant du calvaire d'Illy. Douai, ébranlé, se repliait. Lebrun seul tenait bon sur le plateau de Stenay. Nos troupes occupaient une ligne de 5 kilomètres. Le front de l'armée française faisait face à l'est, la gauche face au nord, l'extrême gauche, brigade Guillaumard, face à l'ouest. Mais on ne savait si l'on faisait face à l'ennemi, on ne le voyait pas. L'extermination frappait sans se montrer. On avait affaire à méduses masquées. Notre cavalerie était excellente, mais inutile. Le champ de bataille obstrué par un grand bois, coupé de bouquets d'arbres, de maisons et de fermes et de murs de clôture, était bon pour l'artillerie et l'infanterie, mauvais pour la cavalerie. Le ruisseau de Givonne, qui coule au fond et le traverse, eut, pendant 3 jours, plus de sang que d'eau. Entre autres lieux de carnage, Saint-Mange fut épouvantable. La trouée par Carignan vers Montmédy parut possible un moment, puis se ferma. Il n'y eut plus que ce refuge, Sedan. Sedan, encombré de charrois, de fourgons, d'attelages, de baraques à blessés, tas de combustible. Cette agonie des héros dura 10 heures. Ils refusaient de se rendre, ils s'indignaient, ils voulaient achever leur mort si vaillamment commencée. On les livra. Nous l'avons dit, 3 hommes, 3 soldats intrépides s'étaient succédés dans le commandement, Mac Mahon, Ducrot, Wipfen. Mac Mahon n'eut que le temps d'être blessé, Ducrot n'eut que le temps de faire une faute, Wipfen n'eut que le temps d'avoir une idée héroïque, et il l'eut. Mais Mac Mahon n'est pas responsable de sa blessure, Ducrot n'est pas responsable de sa faute, et Wipfen n'est pas responsable de l'impossibilité de la trouer. L'obus qui a frappé Mac Mahon l'a retiré de la catastrophe. La faute de Ducrot, l'ordre inopportun de retraite donné au général Lebrun, s'explique par l'horreur confuse de la situation et est plutôt une erreur qu'une faute. Wipfen, désespéré, avait besoin pour sa trouée de 20 000 soldats et n'en put réunir que 2 000. L'histoire dégage ces 3 hommes. Il n'y a eu, dans ce désastre de Sedan, qu'un seul et fatal général, l'empereur. Ce qui s'est noué le 2 décembre 1851 s'est dénoué le 2 septembre 1870. Le carnage du boulevard Montmartre et la capitulation de Sedan sont, nous y insistons, les 2 parties d'un syllogisme. La logique et la justice ont la même balance. Il était dans cette destinée funeste de commencer par un drapeau noir, le massacre, et de finir par un drapeau blanc, le déshonneur. 7. Il n'y avait pas d'autre choix que la mort ou l'opprobre. Il fallait rendre son âme ou son épée. Louis Bonaparte rendit son épée. il écrivit à Guillaume : Monsieur mon frère, n'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis de votre majesté le bon frère, Napoléon, Sedan, le 1er septembre 1870. Guillaume répondit : Monsieur mon frère, j'accepte votre épée. Et le 2 septembre, à 6 heures du matin, cette plaine, ruisselante de sang et couverte de mort, vit passer une calèche à 4 chevaux, attelée à la Daumont, dorée, découverte, et dans cette calèche, un homme, la cigarette à la bouche. C'était l'empereur des Français allant rendre son épée au roi de Prusse. Le roi fit attendre l'empereur. C'était de trop bonne heure. Il envoya M. de Bismarck dire à Louis Bonaparte qu'il ne voulait pas le recevoir encore. Louis Bonaparte entra dans une masure au bord de la route. Il y avait une chambre avec une table et 2 chaises. Bismarck et lui s'accoudèrent sur la table et causèrent. Causerie lugubre. À l'heure qui plut au roi, vers midi, l'empereur remonta en voiture et alla au château de Bellevue, à mi-chemin du château de Vendresse. Là, il attendit que le roi vînt. À 1 heure, Guillaume arriva de Vendresse et consentit à recevoir Bonaparte. Il le reçut mal. Attila n'a pas la main légère. Le roi, rude bonhomme, montra à l'empereur une commisération involontairement cruelle. Il y a des pitiés accablantes. Le vainqueur reprocha la victoire au vaincu. La brusquerie manie mal une plaie vive. Quelle idée avez-vous eue de faire cette guerre ? Le vaincu s'excusa, accusant la France. Les hurrahs lointains de l'armée allemande victorieuse coupaient ce dialogue. Le roi fit reconduire l'empereur par un détachement de la garde royale. Cet excès d'ignominie s'appelle une escorte d'honneur. Après l'épée, l'armée. Le 3 septembre, il fut fait par Louis Bonaparte livraison à l'Allemagne de 83 000 soldats français, plus, dit le rapport prussien, 1 aigle et 2 drapeaux, 99 canons de campagne et mitrailleuses, 139 pièces de place, 1079 voitures de toute espèce, 60 000 fusils, 6 000 chevaux encore en état de servir. Ces chiffres allemands manquent de certitude. Selon que cela semble momentanément utile, les chancelleries zoliques enflent ou désenflent le désastre. Il y eut environ 13 000 blessés parmi les prisonniers. Les nombres varient dans les documents officiels. Un rapport prussien, additionnant les soldats français blessés ou morts dans la bataille de Sedan, publie ce total, 16 400 hommes. Ce nombre donne le frisson. C'est ce chiffre-là, 16 400 hommes, que Saint-Arnaud avait fait travailler sur le boulevard Montmartre le 4 décembre. À 1/2 lieue, au nord-ouest de Sedan, près d'Ige, la boucle de la Meuse fait une presqu'île. Un canal coupe l'isthme, de sorte que la presqu'île est une île. Ce fut là que furent parqués, sous le bâton des caporaux prussiens, 83 000 soldats français. Quelques sentinelles gardaient cette armée. On en mit peu, insolemment. Ces vaincus restèrent là 10 jours, les blessés presque sans soins, les valides presque sans nourriture. L'armée allemande ricanait autour d'eux. Le ciel s'en mêla, le temps fut affreux. Ni baraque, ni tente, pas un feu, pas une botte de paille. Pendant 10 jours et 10 nuits, ces 83 000 prisonniers bivouaquèrent, la tête sous la pluie, les pieds dans la boue. Beaucoup moururent de fièvre, regrettant la mitraille. Enfin, des wagons à bestiaux vinrent et les emportèrent. Le roi mit l'empereur dans un lieu quelconque, Wilhelmshöhe. Quel haillon, un empereur vidé. 8. J'étais là, pensif. Je regardais ces plaines, ces ravins, ces collines, pleins de frémissements. J'eusse insulté volontiers ce lieu terrible. Mais l'horreur sacrée me retenait. Le chef de la station de Sedan était venu jusqu'à mon wagon et m'expliquait ce que j'avais sous les yeux. Il me semblait apercevoir, à travers ses paroles, les pâles éclairs de la bataille. tous ces hameaux lointains, épars et charmants, au soleil, avaient brûlé. Ils étaient rebâtis. La nature si vite distraite avait tout réparé, tout nettoyé, tout balayé, tout remis en place. Le bouleversement féroce des hommes s'était évanoui. L'ordre éternel avait repris le dessus. Mais, je l'ai dit, le soleil avait beau être là, toute cette vallée était fumée et ténèbres. Au loin, sur une éminence, à ma gauche, j'apercevais un vaste château. C'était Vendresse. Là logeait le roi de Prusse. À mi-côte de cette hauteur, le long d'une route, je distinguais au-dessus des arbres trois pignons aigus. C'était un autre château, Bellevue. C'était là que Louis Bonaparte s'était rendu à Guillaume. C'était là qu'il avait donné et livré notre armée. C'était là que, pas tout de suite admis, invité à un peu de patience, il était resté près d'une heure, muet et livide devant la porte, apportant sa honte et attendant qu'il plût à Guillaume de lui ouvrir. C'était là qu'avant de la recevoir, le roi de Prusse avait fait faire antichambre à l'épée de la France. Plus bas, plus près, dans la vallée, à l'entrée de la route menant à Vendresse, on me montrait une espèce de masure. Là, me disait-on, en attendant le roi de Prusse, l'empereur Napoléon III était descendu, blême. Il était entré dans une petite cour qu'on me désigna, et où un chien à la chaîne grondait. Il s'était assis sur une pierre près d'un tas de fumier, et il avait dit « J'ai soif ». Un soldat prussien lui avait apporté un verre d'eau. Effroyable fin du coup d'État. Le sang bu ne désaltère pas. Une heure devait venir où le malheureux jetterait ce cri de fièvre et d'agonie. La honte lui réservait cette soif, et la Prusse ce verre d'eau. Lit affreuse de la destinée. Au-delà du chemin, à quelques pas de moi, cinq peupliers frissonnants et pâles abritaient une façade de maison, dont l'unique étage était surmonté d'une enseigne. Sur cette enseigne était écrit en grosses lettres ce nom, Drouet. J'étais hagard. Drouet. Je lisais Varennes. Tragique hasard qui mêlait Varennes à Sedan, semblait vouloir confronter les deux catastrophes et accoupler dans une sorte de même chaîne l'empereur prisonnier de l'étranger au roi prisonnier de son peuple. L'obscurcissement de la rêverie couvrait pour moi cette plaine. La Meuse me paraissait avoir des reflets rouges. L'île voisine, dont j'avais admiré la verdure, avait pour sous-sol une tombe. 1500 chevaux et autant d'hommes y étaient enterrés. De là l'herbe épaisse. Ça et là, à perte de vue, apparaissaient dans la vallée des monticules avec des végétations sinistres. Chacune de ces végétations marquait la place d'un régiment enseveli. Là avait été anéantie la brigade Guillaumard. Là avait été exterminée la division L'Héritier. Ici avait péri le 7e corps. Là, sans même avoir pu aborder l'infanterie ennemie, était tombé sous des feux tranquilles et bien ajustés, dit le rapport prussien, toute la cavalerie du général Marguerite. De ces deux sommets, les plus élevés de cette enceinte de collines, Daigny, en face de Givonne, qui a 276 mètres, Flaigneux, en face d'Illy, qui a 296 mètres. Les batteries de la garde royale de Prusse avaient écrasé l'armée française. Cela s'était fait de haut, avec l'autorité terrible du destin. Il semblait qu'on fût venu là exprès, les uns pour tuer, les autres pour mourir. Un mortier qui est une vallée, un pilon qui est l'armée allemande. Voilà la bataille de Sedan. Je regardais, sans pouvoir en détacher mes yeux, ce champ du désastre, ces plis de terrain qui n'avaient pas protégé nos régiments, ce ravin où s'était effondrée la cavalerie, tout cet amphithéâtre où s'étageait la catastrophe, les escarpements sombres de la Marfée, ces halliers, ces pentes, ces précipices, ces forêts pleines d'embûches, et dans cette ombre formidable, ô toi, l'invisible, je te voyais. 9. Jamais chute ne fut plus lugubre. Nulle expiation n'est comparable à celle-là. Ce drame inouï à 5 actes, tellement farouche, qu'Eschyle lui-même n'eût pas osé les rêver. Le guet-apens, la lutte, le massacre, la victoire, la chute. Quel nœud et quel dénouement! Un poète qui l'eût prédit eût semblé un traître. Dieu seul pouvait se permettre Sedan. Tout proportionné, c'est sa loi. À pire que Brumaire, il fallait pire que Waterloo. Le premier Napoléon, nous l'avons dit ailleurs. Note, l'année terrible. Fin de note. Avait fait front à la destinée. Il n'avait pas été déshonoré par son supplice. Il était tombé en regardant fixement Dieu. Il était rentré dans Paris discutant les hommes qui le renversaient, distinguant fièrement entre eux, estimant Lafayette et méprisant Dupin. Il avait jusqu'au dernier moment voulu voir clair dans son sort. Il ne s'était pas laissé bander les yeux. Il avait accepté la catastrophe en lui faisant ses conditions. Ici, rien de pareil. On pourrait presque dire que le traître est frappé en traître. C'est un malheureux qui se sent manié par le destin et qui ne sait pas ce qu'on lui fait. Il était au sommet de la puissance, maître aveugle du monde imbécile. Il avait souhaité un plébiscite, il l'avait eu. Il avait à ses pieds ce même Guillaume. C'est à ce moment-là que brusquement son crime l'a saisi. Il ne s'est pas débattu. Il a été le condamné qui obéit à la condamnation. Il s'est prêté à tout ce que le sort terrible voulait de lui. Pas de patient plus docile. Il n'avait pas d'armée. Il a fait la guerre. Il n'avait que Rouet. Il a provoqué Bismarck. Il n'avait que Leboeuf. Il a attaqué Moltke. Il a confié Strasbourg à Ulrich. Il a donné Metz à garder à Bazaine. Il avait 120 000 hommes à Châlons. Il pouvait couvrir Paris. Il a senti que son crime s'y dressait, menaçant et debout. Il a pris la fuite devant Paris. Il a mené lui-même, exprès et malgré lui, le voulant et sans le vouloir, le sachant et sans le savoir. Misérable esprit en proie à l'abîme, il a mené son armée dans un lieu d'extermination. Il a fait ce choix effrayant du champ de bataille sans issue. Il n'avait plus conscience de rien, pas plus de sa faute d'aujourd'hui que de son crime d'autrefois. Il fallait finir, mais il ne pouvait finir qu'en fuyard. Ce condamné n'était pas digne de regarder sa fin en face. Il a baissé la tête, il a tourné le dos. Dieu l'a exécuté en le dégradant. Napoléon III, comme empereur, avait droit au tonnerre, mais pour lui le tonnerre a été infamant. Il a été foudroyé par derrière. 10. Oublions cet homme et regardons l'humanité. L'envahissement de la France en 1870 par l'Allemagne a été un effet de nuit. Le monde s'est étonné que tant d'ombre pût sortir d'un peuple. 5 mois noirs, voilà le siège de Paris. Faire la nuit, cela peut prouver de la puissance, mais la gloire, c'est de faire le jour. La France fait le jour. De là son immense popularité humaine. La civilisation lui doit l'aurore. L'esprit humain, pour voir clair, se tourne du côté de la France. 5 mois de ténèbres. Voilà ce qu'en 1870, l'Allemagne a réussi à donner aux nations. La France leur a donné 4 siècles de lumière. Aujourd'hui, le monde civilisé sent plus que jamais le besoin qu'il a de la France. La France a fait sa preuve par son péril. L'apathie ingrate des gouvernements n'a fait qu'accroître l'anxiété des nations. À la vue de Paris menacée, il y eut parmi les peuples une terreur de décapitation. Va-t-on laisser faire l'Allemagne ? Mais la France s'est sauvée toute seule. Elle n'a eu qu'à se lever. Patuit Dea. Aujourd'hui, elle est plus grande que jamais. Ce qui eût tué toute autre nation l'a blessée à peine. L'assombrissement de son horizon a rendu plus visible sa lumière. ce qu'elle a perdu en territoire, elle l'a regagné en rayonnement. Aussi est-elle fraternelle sans effort. Au-dessus de son malheur, il y a son sourire. Ce n'est pas sur elle que pèse l'empire gothique. Elle est une nation de citoyens, et non un troupeau de sujets. Les frontières, y aura-t-il des frontières dans 20 ans? Les victoires, la France a dans le passé les victoires de la guerre, et dans l'avenir les victoires de la paix. L'avenir est à Voltaire, et non à Krupp. L'avenir est au livre, et non au glaive. L'avenir est à la vie, et non à la mort. Il y a dans la politique, opposée à la France, une certaine quantité de sépulcres. Chercher la vie dans les vieilles institutions est chose vaine, et se nourrir du passé, c'est mordre dans la cendre. La France a la faculté éclairante. Aucune catastrophe, politique ou militaire, ne lui ôtera cette suprématie mystérieuse. Le nuage passé, on revoit l'étoile. L'étoile n'a pas de colère, l'aurore n'a pas de rancune. La lumière se satisfait en étant la lumière. La lumière, c'est tout. Le genre humain n'a pas d'autre amour. La France se sait aimée parce qu'elle est bonne. Et la plus grande de toutes les puissances, c'est d'être aimée. La Révolution française est pour tout le monde. C'est une bataille perpétuellement livrée pour le juste et perpétuellement gagnée pour le vrai. Le juste, c'est le fond de l'homme. Le vrai, c'est le fond de Dieu. Que faire contre une révolution qui a tellement raison? Rien. L'aimer. C'est ce que font les nations. La France se donne, le monde l'accepte. Tout le phénomène actuel est dans ces quelques mots. On résiste à l'invasion des armées. On ne résiste pas à l'invasion des idées. La gloire des barbares est d'être conquis par l'humanité. La gloire des sauvages est d'être conquis par la civilisation. La gloire des ténèbres est d'être conquise par le flambeau. C'est pourquoi la France est voulue et consentie de tous. C'est pourquoi, n'ayant aucune haine, elle n'a aucune crainte. C'est pourquoi elle est fraternelle et maternelle. C'est pourquoi elle est impossible à amoindrir, impossible à humilier, impossible à irriter. C'est pourquoi, après tant d'épreuves, tant de catastrophes, tant de désastres, tant de calamités, tant de chutes, incorruptible et invulnérable, elle tend la main à tous les peuples, de haut. Quand le regard se fixe sur ce vieux continent remué aujourd'hui d'un souffle nouveau, de certains phénomènes apparaissent. Il semble qu'on entrevoie cette chose auguste et mystérieuse, la formation de l'avenir. On peut dire que, de même que la lumière se compose de 7 couleurs, la civilisation se compose de 7 peuples. De ces peuples, 3, la Grèce, l'Italie et l'Espagne, représentent le Midi. 3, l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie représentent le Nord. Le 7e, ou le 1er, la France, est à la fois Nord et Sud, celtique et latin, Goth et grec. Ce pays doit à son ciel ce hasard sublime, le croisement des 2 rayons. Le croisement des 2 rayons, c'est comme si l'on disait la jonction des 2 mains, c'est-à-dire la paix. Tel est le privilège de cette France. Elle est à la fois solaire et étoilée. Elle a dans son ciel autant d'aubes que l'Orient et autant d'astres que le septentrion. Quelquefois, c'est dans les ténèbres que sa lueur se lève. C'est dans la nuit noire des révolutions et des guerres que son resplendissement flamboie et ses aurores sont boréales. Un jour, avant peu, les 7 nations qui résument toute l'humanité s'allieront et se fondront comme les 7 couleurs du prisme dans une radieuse courbure céleste. Le prodige de la paix apparaîtra, éternel et visible, au-dessus de la civilisation. Et le monde contemplera, ébloui, l'immense arc-en-ciel des peuples unis d'Europe. fin.